Solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assos.
Et en cette semaine de rentrée, je vous propose de partir à la découverte de l'estuaire de la Loire et de son très riche patrimoine, de Nantes à l'embouchure du fleuve à Saint-Nazaire, lieu où les eaux marines rencontrent les eaux douces. L'estuaire de la Loire est un milieu naturel vivant et fragile qu'une association s'attelle à valoriser et à protéger. L'association s'appelle Estuarium, c'est l'association de la semaine. Rencontre sur les bords de Loire, pratiquement les pieds dans l'eau, avec Amandine Smag, en charge de l'action éducative à l'association Estuarium.
Alors, notre association a ses bureaux qui sont basés à Cordemais, qui nous accueillent. Et sinon, on intervient dans tout l'estuaire entre Nantes et Saint-Nazaire, autant sur la rive nord que la rive sud.
Alors, justement, dites-nous ce qu'est Estuarium. Son historique, tout d'abord, c'est né comment, cette association?
Alors, en 1996, à l'origine, c'est une émanation de la DRAC qui a souhaité pouvoir bien recenser un petit peu tout le patrimoine de ce territoire-là. Et puis aujourd'hui, on vole de nos propres ailes avec trois grandes missions autour de la valorisation du patrimoine. Donc dans ce cadre-là, les communautés de communes peuvent faire appel à nous pour notre expertise, la réalisation d'expositions, de panneaux par exemple. L'animation territoriale aussi, et puis l'éducation à ce territoire-là, avec le public scolaire, mais aussi le public familial, le groupe d'adultes, etc.
On va y revenir tout au long de cet entretien. Ce territoire que vous valorisez avec diverses actions, c'est un territoire assez particulier, l'estuaire de la Loire.
C'est un territoire qui, de par son nom, est émouvant, qui passe son temps à évoluer, parce que l'estuaire, en fait, c'est la seule partie d'un fleuve qui est soumis à l'impact de la marée. Et donc, par définition, on va avoir des paysages qui changent en fonction de cette marée, en fonction des lumières, du vent, parce qu'on a aussi une météo qui est assez changeante. Et ça permet de mettre en lumière des paysages qui soient naturels avec les marais estuariens ou un petit peu plus bâtis, voire industriels, parce qu'on a une dualité qui est assez intéressante quand même sur notre territoire entre industrie et nature, avec notamment la présence du quatrième port français avec Nantes-Saint-Nazaire port. Et donc on a une dualité qui est assez intéressante et assez étonnante quand on n'est pas estuarien en fait.
Alors, quand on est à Saint-Nazaire, on n'a pas la même vision que nous ici à Nantes. L'estuaire, c'est pratiquement une mer intérieure du côté de Saint-Nazaire.
Ah à Saint-Nazaire, oui, ils ont la fierté de dire que l'estuaire, c'est eux, même si effectivement, ça remonte jusque Nantes, voire jusqu'à Ancenis, en fonction des critères qu'on va prendre en compte. Mais une mer intérieure, non, parce qu'on a... Un estuaire qui est quand même assez aménagé en l'occurrence, nous ici sur l'estuaire de la Loire, avec un fleuve qui est beaucoup plus étroit qu'il ne l'a été 18e, même 19e siècle.
Est-ce qu'il est toujours sauvage d'ailleurs par ici?
Alors oui, on dit la Loire, c'est le dernier fleuve sauvage de France, moins dans sa partie estuarienne, parce qu'effectivement ça va être une partie du fleuve qui a été transformée vraiment par la main de l'homme. Là, on est sur l'île de Nantes, une seule île. C'est ce qu'on va voir dans l'animation de tout à l'heure sur le patrimoine de l'île de Nantes. C'est qu'ici, à la base, il n'y en avait pas qu'une seule, il y en avait 11. Il faut s'imaginer, en fait, aujourd'hui, dans l'estuaire, il n'y a plus d'îles, hormis dans la partie estuarienne, hein, l'île de Nantes, le banc de Bilot, éventuellement l'île Saint-Nicolas. Ça nous en fait trois, il faut en imaginer une cinquantaine. Donc c'était un fleuve qui était beaucoup plus large, beaucoup moins profond qu'il ne l'est aujourd'hui et qui ne permettait pas la remontée des bateaux, puisqu'on parlait du port. Nantes est une ville portuaire. Aujourd'hui, ces infrastructures sont déplacées, achevirées à Saint-Nazaire beaucoup, puisqu'on en parlait. Mais on a tenté de permettre la remontée des bateaux en transformant le fleuve, en essayant de rétrécir son lit, d'approfondir le niveau d'eau pour permettre la remontée des bateaux. C'est ce qui fait que le paysage a beaucoup évolué de la main de l'homme. Donc naturel, oui, parce qu'on a des vasières, on a des roselières, des marais estuariens, mais on est sur des espaces naturels aménagés.
Oui, mais alors justement ces espaces naturels qui sont visitables, vous faites faire des visites dans ces marais?
Oui, on organise beaucoup de visites pour le public scolaire, hein, de la maternelle au lycée, voire aux étudiants d'université. C'est des espaces qui sont ouverts à tous. On rencontre même le week-end beaucoup de familles qui s'y promènent à pied pour observer les oiseaux, aller pêcher. On y voit beaucoup de vélocyclistes parce qu'il y a pas mal d'itinéraires cyclables également sur le territoire estuarien. Donc non, c'est des espaces. La Loire n'est pas forcément toujours accessible parce qu'il y a des anciennes îles, parce qu'il y a des prairies qui sont occupées par les vaches, mais on peut se promener. Il y a beaucoup de routes et de chemins qui jalonnent ces territoires-là.
Alors, nous sommes à Nantes, mais j'aimerais tout de même que vous nous présentiez tous ces marais, j'allais dire en aval de l'estuaire, et les milieux naturels en plus.
Alors, les marais estuariens, c'est vraiment une particularité. On connaît beaucoup les marais salants. On parle aussi pas mal avec le parc naturel régional de Brière des marais Briéron. Mais on a aussi dans l'estuaire des marais. Alors, sont des zones humides qui ont été transformées, aménagées dès le Moyen-Âge par les moines pour pouvoir en faire des prairies sur lesquelles il va y avoir de l'élevage, récolte de foin. Et donc, c'est des espaces qui vont permettre d'avoir une mosaïque de paysages naturels différents, des différents écosystèmes et qui permettent d'avoir une grande biodiversité dans les marais, entre les prairies, les canaux, les douves où on a de l'eau qui passe, les vannes qui vont permettre de réguler tout ça, mais aussi les haies qui vont pouvoir clôturer, on va dire, ces espaces-là. On va avoir une grande biodiversité. On va observer autant des petits passereaux que des grands échassiers, avec la cigogne notamment. Et puis des poissons de l'estuaire. On va avoir à la fois des espèces plutôt fluviales, d'autres migratrices. On a notamment la civelle qui arrive ici et puis qui grandit dans les marais estuariens pour devenir anguille, l'anguille européenne. Parce que ça, c'est souvent la grande question des enfants. Est-ce que c'est l'anguille électrique? Non, pas la nôtre.
Mais est-ce que vous parlez de la faune là pour l'instant? Est-ce qu'elle est menacée? Est-ce qu'elle est bien préservée?
Alors, on a des espèces rares et protégées dans l'estuaire. Si on reste sur la partie un petit peu plus oiseaux, en gros, on peut observer dans l'estuaire la moitié des espèces observables en France, parce qu'on a cette mosaïque d'habitats. Donc forcément, dans le tas, il y a des espèces qui sont protégées, qui sont menacées. La cigogne, elle l'était avec ses mesures de protection. Aujourd'hui, elle l'est beaucoup moins. Donc ça, c'est plutôt positif. Il y a d'autres espèces comme un petit passereau, le phragmite aquatique, la Crocephalus paludicola de son nom scientifique.
Oh là.
qui lui ne fait que quelques grammes et en fait il a la particularité de faire une très grande migration. Il part de Sibérie, il va jusqu'en Afrique, il se fait une halte migratoire dans nos roselières et malheureusement l'Acrola, qui est une association et qui porte du coup l'acronyme du nom de ce petit oiseau qui réalise des bagages tous les ans sur la période estivale, observe le déclin de cette population de petits phragmites aquatiques et d'autres aussi, malheureusement.
Ah bah justement, ces bagages, ça se passe comment concrètement le...
Là, c'est dans les roselières, notamment la roselière de Dongest, en l'occurrence, qui est d'importance internationale parce que c'est la plus grosse roselière de l'estuaire et qui est, elle, protégée, préservée, on n'y touche pas, même si on est sur des terres du port d'ailleurs. Et donc, en fait, les ornithologues et les bagueurs qui sont certifiés installent des filets dans les roseaux le matin et à la tombée de la nuit, qui sont ensuite enlevés le reste du temps. Ils peuvent passer quelques chants, quelques cris d'oiseaux pour les attirer. Et donc, les oiseaux vont se prendre dans les filets et ils passent régulièrement les ramasser, les mettre dans des petits sacs. Et ensuite, de retour au camp de bagages, ça va permettre de pouvoir peser, mesurer les oiseaux, identifier les espèces, bien évidemment. Et pour les individus qui ne seraient pas bagués, leur mettre une bague qui va permettre... Si on réattrape l'animal, de voir un petit peu le parcours qu'il a pu faire.
On va marquer une petite pause avant de retrouver Amandine Smag en charge de l'action éducative au sein de l'association Estuarium. C'est notre invité associatif de la semaine. Alors Amandine Smag, il y a quelques secondes, on parlait de l'estuaire en aval, mais à mesure qu'on remonte la Loire, qu'est-ce qu'on croise comme espèce?
Alors ça va varier parce qu'on part de Saint-Brévin, Saint-Nazaire avec un estuaire sur la rive nord qui est extrêmement industrialisé. On est sur des zones industrielles portuaires, c'est assez normal. Alors qu'au sud, on a encore toutes ces petites pêcheries qui permettent d'attraper les poissons dont on parlait tout à l'heure, hein, notamment l'anguille, la lose, la lamproie aussi, le vampire de l'estuaire. Ensuite, quand on quitte cette zone maritime, on va dire là où le fleuve s'agrandit le plus, on remonte vers Nantes, on est dans la partie plus naturelle, entourée donc des roselières, des marais estuariens, où là on va avoir aussi bien des oiseaux, des mammifères que des plantes. Hein, aussi, on a l'angélique des estuaires, par exemple, qui est une plante extrêmement rare dans le sens où elle a besoin, elle, d'eau saumâtre, c'est-à-dire d'avoir ce mélange d'eau douce et d'eau salée, hein, spécifique de l'estuaire, pour pouvoir pousser. Et donc ensuite, bah, quand on remonte encore, on quitte cette partie un peu plus naturelle pour arriver dans la zone vraiment endiguée, où là, on va retrouver Couëron, Indre, Le Pèlerin, Rezé, Nantes, etc. Et donc là, on est sur des zones plus urbaines. Donc on va encore avoir du héron cendré, par exemple, ici sur l'île de Nantes. On va retrouver du faucon cresserel qui va aussi pouvoir nicher en ville. Donc on reste sur un territoire qui est riche, oui.
Alors vous l'avez évoqué il y a quelques instants, on va parler un petit peu de la flore. Une flore très riche également, on a beaucoup parlé de la faune, mais la flore.
Bah, la flore aussi, oui, j'évoquais l'angélique des estuaires qui est quand même assez emblématique. Elle ne pousse que dans 4 estuaires au monde et ils sont tous français en l'occurrence. Donc, il y a des mesures de protection sur cette plante-là spécifiquement au niveau des aménagements, par exemple, qui pourraient être faits sur les berges. À partir du moment où il y a de l'angélique, eh bien, il ne faut pas détruire, c'est comme pour les animaux, on ne peut pas détruire l'habitat de l'animal ou de la plante. On ne peut pas détruire la plante en elle-même non plus. Donc voilà, c'est vraiment important de pouvoir identifier ces plantes-là. Puis on a après dans l'estuaire pas mal de roseaux. C'est vrai que quand on parle roseaux, on pense aux roseaux massettes, mais nous on a beaucoup de roseaux phragmites qui servaient autrefois à faire les toits de chaume par exemple, mais aussi les paniers pour pouvoir stocker la viande vu qu'on était sur des prairies avec de l'élevage. Et puis dans les haies, on va retrouver beaucoup d'arbres têtards. Alors l'arbre têtard en soi, c'est pas une essence en elle-même, c'est une façon de tailler les arbres. Donc ça peut être des chênes, ça peut être des saules, ça peut être des frênes. On a beaucoup de frênes dans l'estuaire à qui on va couper la tête tous les 5 à 10 ans, régulièrement, pour pouvoir récupérer à la base du bois de chauffage. Et aujourd'hui, comme ça fait partie de notre patrimoine, que c'est des arbres qui, du coup, ont une forme particulière, ça va permettre d'abriter une faune assez, assez dense. On parle d'HLM des marais, c'est assez parlant, on va dire. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est des choses qui sont représentatives aussi des marais estuariens, les arbres têtards.
Alors intuitivement, comme ça, on se dit c'est un territoire très fragile, cet estuaire. Et vous, à l'association, vous travaillez à la préservation de ce territoire, de ce patrimoine?
On n'a pas vocation à le préserver, mais à le faire connaître pour que tout à chacun ensuite puisse en devenir ambassadeur et le préserver à son propre niveau. On n'est pas de gestionnaire de territoire. On accompagne les structures en ce sens, qu'elles soient associées ou alors communale. On travaille avec les communes, les communautés de communes, mais on travaille aussi avec l'OFB, avec la fédération de chasse. On a plutôt une vision de réseau et d'accompagnement à Estuarium et pas de gestionnaire.
Qu'est-ce qui menace le plus cet estuaire de votre expérience à vous et historiquement? On a parlé de Saint-Nazaire, l'industrialisation, l'urbanisation du côté de Nantes. Quelles sont les principales menaces?
Alors effectivement, il y a eu des menaces d'industrialisation qui sont aujourd'hui beaucoup moindres qu'elles ont pu être à l'époque.
On peut penser à la raffinerie à Donge, par exemple.
On peut penser à la raffinerie de Donge et à la roselière de Donge-Est qui est juste à côté. La raffinerie s'étend, et là, elle arrive aux limites de ce qu'elle peut faire, puisqu'il faut même déplacer la voie de chemin de fer pour pouvoir traverser, non plus au milieu de la raffinerie, mais entre la commune et la raffinerie, ce qui est pas rien en soi non plus. Mais c'est que juste à côté de la raffinerie, on a la roselière de Donge-Est, où je parlais du bagage de tout à l'heure. Ce sont des terres de Nantes-Saint-Nazaire-Port qui sont des espaces naturels et qui le resteront parce qu'il y a la volonté politique et de l'entreprise de pouvoir garder les espaces naturels qu'ils ont. On peut penser aussi plus récemment au site du Carnet, avec anciennement le projet de centrale nucléaire qui n'a pas abouti, avec des terres qui avaient déjà commencé à être aménagées. Donc on a pu avoir pendant quelques années l'éolienne Aliade 150, éolienne prototype de celles qui sont installées là actuellement au large de Saint-Nazaire. Et qui est aujourd'hui démontée et où y a un projet de pouvoir y faire une zone éco-technologique pour pouvoir accueillir des entreprises qui seraient dans les énergies marines renouvelables, par exemple. La volonté de Nantes-Saint-Nazaire Port étant d'être dans la moteur dans la transition énergétique. Donc ce site pourrait s'y prêter et sur place, on a déjà eu une petite ZAD, comme on avait pu le voir à Notre-Dame-des-Landes, pour pouvoir protéger ce milieu-là. Ça, c'est des choses que nous, on va observer, mais sur lesquelles on ne va pas se positionner. On n'est pas une association environnementale. On a vraiment une vision globale du territoire.
Alors, vous parlez de vision patrimoniale, vous nous l'avez dit en introduction. Quand on parle de patrimoine, on pense parfois aussi au patrimoine bâti. Est-ce que ça rentre aussi dans vos missions à vous ?
Ah oui, le patrimoine, nous, on le voit dans sa globalité, effectivement, qu'il soit environnemental, artistique, culturel, industriel, le bâti aussi. Par exemple, là, cet été, ça fait 2 ans maintenant, sur Saint-Étienne-de-Montluc, avec l'Office de tourisme, qu'on organise une petite balade à vélo pour voir les belles demeures de la commune. Donc le patrimoine bâti, oui, bien sûr, c'est d'ailleurs, quand on parle patrimoine, on pense souvent à ça en premier, et moins au patrimoine naturel qui pourtant fait aussi partie du patrimoine. Donc oui, c'est important, tout comme le patrimoine artistique avec les œuvres du parcours et de la Biennale Estuaire, œuvres sur lesquelles d'ailleurs on intervient en médiation auprès du public scolaire aussi.
Justement, médiation auprès du public scolaire, il est très sensible à ce territoire, le public scolaire que vous rencontrez régulièrement.
On rencontre, oui, le public scolaire très régulièrement parce que c'est notre public cible, on va dire. Ce qui est assez intéressant pour les enseignants et les professeurs, c'est qu'ici, on est sur un territoire extrêmement riche, ce qui permet de travailler de façon transversale, pluridisciplinaire. Quand on va dans les marais, par exemple, on aborde à la fois tout ce qui est SVT, les sciences, la biologie, mais aussi l'histoire des aménagements des marais et donc de la géographie. Enfin voilà, on voit une vision globale. Ça nous permet, par exemple, d'évoquer le peintre naturaliste Jean-Jacques Audubon, et donc d'ouvrir encore au plus avec ce volet artistique et scientifique, avec un partenariat qu'on a avec le Muséum d'Histoire Naturelle, avec un appel à projet là cette année dans le cadre des transengagements pour le fleuve. On avait proposé un programme éducatif, la Loire et nous. Et entre la Loire et nous, eh bien, on vient mettre un personnage différent. Donc on avait commencé sur les 3 premières éditions avec Jules Verne. Et donc cette année, on recommence, si je puis dire, avec la Loire, Jean-Jacques Audubon et nous. Et donc il va y avoir des projets qui vont être montés par des écoles et des collèges, lycées, sur la découverte du territoire estuarien dans les pas de Jean-Jacques Audubon.
Des projets et des actions éducatives, notamment dans le cadre de l'initiative Collèges engagés pour l'environnement. Suite et fin de cet entretien dans un instant.
Fidélité à Saint-Nazaire, 92.5.
Et nous parlons cette semaine de l'estuaire de la Loire avec l'association Estuarium. Notre invitée Amandine Smag est en charge de l'action éducative au sein de l'association. Et avant de la retrouver pour le dernier volet de cet entretien, on va arriver un petit peu en montant sur une des nombreuses pêcheries qui bordent l'embouchure du fleuve. Les pêcheries, ce sont ces cabanes sur pilotis munies d'un système de pêche par filet actionné par un treuil. Alors, des pêcheries, on en trouve à Corset, à Saint-Nazaire et à Saint-Brévin.
Sur les bords de Loire, en retrait du pont et des installations portuaires de Donges, il est possible d'oublier le monde industriel. On se retrouve vite à rêver de squatter, ne serait-ce que le temps d'une marée, une de ces pêcheries dont les passerelles hérissent la rive.
Et plutôt que de rêver, sachez que 2 pêcheries sont même proposées à la location pour vous initier à la pêche au carrelet, des pêcheries qui se trouvent à Saint-Brévin et à Corset. Pas de pêcherie à Nantes, mais un patrimoine très riche, en particulier sur l'île de Nantes. Et dernière étape de notre reportage, notre invitée Amandine Smag y organise régulièrement des visites à destination du grand public pour faire découvrir cette partie-là de l'estuaire.
On est vraiment dans le cœur de nos missions, l'éducation au territoire. Ici sur l'île de Nantes, ce qui est drôlement intéressant, c'est de voir l'évolution du patrimoine et l'appropriation qu'on a pu en faire. On est sur une ancienne île avec chantier naval, qui n'y a plus aujourd'hui puisque les chantiers ont dû être déplacés plus en aval sur le fleuve pour des raisons techniques. Et donc, comment la ville s'est réappropriée cette histoire, ce patrimoine-là, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, qu'est-ce que ça va devenir demain. C'est ça en fait qui est intéressant sur l'île de Nantes, de voir cette appropriation patrimoniale.
Et c'est une évolution qui vous semble aller dans le bon sens, ce qui se passe sur l'île de Nantes?
Alors sur toute la partie que nous on va découvrir avec le public, oui, parce que on est à la fois sur le côté artistique, culturel, on garde sens aussi avec l'histoire des lieux, avec le patrimoine industriel, avec le patrimoine des chantiers navals aussi. Et puis après tout ce qui est plus aménagement de cœur de l'île pour pouvoir en faire un méta-centre-ville, là on est sur finalement des espaces qui sont un petit peu différents et nous on se concentre plus sur ceux qui nous intéressent et qui sont plus connectés à la Loire.
Et quels sont les principaux rendez-vous à venir là, à la rentrée, au premier trimestre, oui?
Alors oui, premier trimestre scolaire, c'est ça, c'est la rentrée des écoliers. Donc on relance toutes les animations parce que comme on est sur le territoire en extérieur pour pouvoir aller découvrir in situ ce que c'est que l'estuaire de la Loire, on intervient toute l'année, quelles que soient les saisons. On adapte les animations en fonction, mais on est capable d'accueillir les groupes toute l'année. On peut aussi accueillir des groupes d'adultes pour des visites, par exemple, au niveau de la machinerie du canal de la Martinière. On va avoir là, pour les Journées européennes du patrimoine, pas mal d'animations. On vient faire, par exemple, auprès de la région, le tour de l'île de Nantes en bateau, pour voir, par exemple, les franchissements. On accompagne aussi EDF sur les petites croisières qui sont proposées pour découvrir la centrale vue du fleuve. On apporte le côté histoire, patrimoine et territoire cordemaisien. Donc, c'est là, pour le coup, ouvert plus aux familles. Donc, on va dire que sur la rentrée, c'est déjà pas mal. C'est un beau projet, les Journées européennes du patrimoine.
C'était donc Amandine Smag, notre invitée associative de la semaine. Elle est en charge de l'action éducative auprès de l'association Estuarium, association de ressources sur l'éducation, l'environnement et sur la valorisation du patrimoine de l'estuaire de la Loire. Alors sachez que vous pouvez sillonner les 60 km de l'estuaire de la Loire, sur terre bien sûr, en voiture, beaucoup plus écologique, à vélo, à partir de Nantes, sur les tracés de la Vélodyssée et de la Loire à vélo. Vous pouvez également sillonner l'estuaire sur l'eau et découvrir ce paysage unique qui héberge des sites du patrimoine, des espaces naturels, des vestiges industriels. Les bateaux de la compagnie Marine et Loire vous permettent de redescendre le fleuve de Nantes jusqu'à Saint-Nazaire, une balade que je vous conseille vivement. Je vous conseille également d'aller sur le site internet de l'association estuarium.org pour avoir des détails sur les diverses actions de l'asso. L'entretien avec Amandine Smag est également disponible en podcast sur notre site internet www.radio-fidélité.com.